dans la caméra et tu sommes ça. Tu seras pas. Tu es plutôt assise. Où est moi? Si tu es trop près de ces deux.
On va comme ça. J'aime mieux être debout.
J'aime mieux être
debout. Oui, pas de problème.
Non,
là, on t'entend
bien.
Ça marche? Bah oui, ça marche, oui.
C'est tout ça.
Non, c'est, tu, il s'est arrêté là.
Est-ce que oui, ça va?
Non, normalement c'est bon.
On va avoir besoin d'un deuxième micro pour
marcher. On va essayer celui-là. Tiens,
est-ce celui-là.
Est-ce que ça va?
Oui.
Ouf. Bonsoir à tous.
Vas-y, pas.
Bon, alors, j'espère que je vais y arriver. Merci d'être venus si nombreux. La pêche de l'eau, hein. Je suis heureuse de vous accueillir au nom du groupe interreligieux pour la paix des Yvelines, c'est le GIP 78, et au nom de l'amitié judéo-chrétienne de Versailles. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le GIP, je vous rappelle ses objectifs: favoriser une meilleure connaissance et une meilleure compréhension mutuelle entre les différentes communautés religieuses et culturelles, pour qu'ensemble, au service de la société civile, leurs membres contribuent au développement des liens sociaux et à la préservation de la paix locale. GIP, ça se termine par paix. Je souhaite d'abord remercier la mairie de Versailles en la personne de Sylvie Pigano, maire adjointe ici présente, pour le prêt de cette salle. Merci Sylvie. Si, si, c'est normal.
Bien sûr que si.
Nous avons la joie et l'honneur de recevoir l'écrivain Marek Alter, bien connu de tous, auteur d'une quarantaine d'ouvrages et militant infatigable pour la paix. Et c'est le thème de cette soirée, comme vous savez, la paix à quel prix, point d'interrogation. Et il nous présentera aussi son dernier roman, Le Juif, qui vient de paraître. Il y a beaucoup d'exemplaires là-bas. Il sera en dialogue avec Marie-Hélène Abron, journaliste qui travaille depuis longtemps avec lui. Avant de leur laisser la parole, je vous indique rapidement le déroulement de la soirée. Donc d'abord un moment d'échange entre Marek et Marie-Hélène, puis un temps pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Enfin, un temps qui vous permettra d'aller profiter du comptoir de librairie, c'est déjà commencé d'ailleurs, et de faire dédicacer les ouvrages que vous aurez eu envie d'acheter. Et en même temps, un verre de l'amitié vous attend de l'autre côté pour vous permettre de vous rencontrer. Alors, avant de céder la parole à nos invités, j'ai une dernière annonce qui est la prochaine manifestation que le GIP organise Et ben vous aurez en fait, enfin ceux du GIP, vous aurez le rappel, mais c'est une pièce de théâtre d'Ismaël Saïdi, qui est déjà venu pour la pièce Jihad, mais là c'est un autre sujet. Sa pièce s'appelle Jérusalem. On est plusieurs à l'avoir vue à Paris, c'est très fort. Et c'est le 9 avril de cette année, bien sûr, à 20h30, à l'Université ouverte de Versailles. Donc là-bas, impasse des gendarmes, dans le grand auditorium, le 9 avril. Voilà, maintenant je vous souhaite une très belle soirée. C'est un peu loin, non?
Si, ça marche.
Alors, on demande autre chose. Alors, une autre truc, en fait, je n'ai pas été jusqu'au bout de l'année scolaire, parce que effectivement, le GIP organise une troisième table ronde, comme on en a déjà eu ici même deux, une sur le mariage dans nos religions et confessions, c'était en janvier dernier, et une autre sur la mort et après, ici toujours, en novembre, fin novembre. On a un troisième thème qu'on va développer de la même façon à quatre voix, juives, catholiques, protestantes et musulmanes, et c'est le pardon dans nos religions et confessions. Alors c'est le, je crois, 19 mai,
mardi,
19 mai
à
20h, hein, ici. Toujours grâce à Sylvie d'ailleurs.
Tout à fait.
Voilà.
Ah, et tu dis qu'on pourra aller voir.
Non, les
choses. J'achète.
Oui.
Merci Ariane pour cette présentation. Bonsoir à toutes et tous. Merci avant tout à Madame Pigano, qui aura été célébré trois fois ce soir, de nous accueillir à Versailles, à Ariane Deblic et Gabriel qui est fait client pour la coordination de cette soirée, et aussi à tous les bénévoles, et c'est très important, qui ont installé cette salle tout à l'heure, on l'a vu avec Marie Calter. Alors ce soir, nous nous réunissons autour de la paix, donc avec Marie Calter, que je vais saluer dans quelques instants. En introduction, j'aimerais juste revenir sur le mot de paix, parce que la paix, c'est un mot que tout le monde prononce. C'est un mot court, simple, en apparence universel. Et pourtant, derrière ce mot se cachent des réalités complexes, douloureuses et parfois contradictoires. C'est ce que nous allons tenter d'explorer ce soir. Merci d'être présent donc parmi nous, Marek Ater. Bonsoir Marek. Et merci aussi au public d'être présent, de nous avoir rejoints pour cette conférence à l'occasion de la sortie de votre 39e ouvrage, pas tout à fait 40, mais le 40e, je sais qu'il est en cours de finition déjà, un roman qui est intitulé Le Juif, publié aux éditions Fayard. Alors je vais me répéter un petit peu de ce qu'a dit Ariane, puisqu'elle m'a volé la vedette au départ, c'est pas grave. Non, c'est juste pour vous expliquer brièvement aux personnes donc, qui sont présentes dans cette assemblée, le déroulé de la soirée. On va donc échanger ensemble sur votre parcours, Marek, l'objet de votre ouvrage, vos engagements en faveur de la paix et le thème qui nous réunit bien évidemment. Et puis, si vous êtes d'accord, on aura ensuite un temps de jeu de questions-réponses avec les spectateurs, avec vous, messieurs, dames, avant un moment de dédicace qui va permettre la rencontre. Alors, pour revenir brièvement à votre vie, je dirais que vous êtes né en janvier 1936, vous venez de fêter vos 90 ans. Et on peut l'applaudir. Votre papa était imprimeur. Et votre maman, poétesse yiddish. Votre famille a réussi à fuir le ghetto de Varsovie grâce à des catholiques, un groupe de catholiques, pour en dire quelques mots, si vous le souhaitez. Puis vous avez été ballotté par la guerre de pays en pays, avant d'arriver à Paris dans les années 50. Vous avez vécu en Israël, fait des études aux Beaux-Arts, vous avez exposé vos œuvres, entre autres, à Buenos Aires. Vous avez fait un peu le tour du monde, en fait. Au moment où Netflix, et ça c'est un petit peu une annonce en avant-première, s'apprête à diffuser un film sur votre vie et vos engagements, j'aimerais vous demander, est-ce qu'on pourrait dire, cher Marek, que vous êtes un peu un citoyen du monde ?
Non.
Je disais mince alors.
Je suis citoyen de l'humanité, pas du monde. Pour moi, le monde n'a jamais existé sans personnage. Quand j'étais peintre, comme j'ai connu Nicolas de Staël, qui m'a appris un peu comment on pouvait peindre avec très peu de moyens, ça ne marche pas, très peu de moyens, parce que je n'avais pas, donc j'achetais des toiles au marché aux puces, des vieilles toiles, et après je mettais du blanc qu'on utilise pour les façades de maison, et après je mélangeais ce blanc avec la couleur, donc ça donnait de l'épaisseur. C'est comme ça qu'il peignait d'ailleurs. Et, sauf que lui, il arrivait, il avait plus de temps que moi, et il m'a demandé. Moi, j'ai essayé chaque fois d'introduire des personnages dans l'abstraction. Parce que pour moi, un désert, il est beau, mais quand je vois un chameau au bout, c'est beaucoup plus beau. C'est l'humanité, c'est les hommes qui m'intéressent, pas la nature.
On n'entend pas bien. Henri,
il faut mieux. Après, ça, je ne sais pas ce qui se passe.
Il faut changer peut-être.
Bah, inverser les micros. Voilà.
Un, deux. Oui, m'entendez-moi.
Ouais, est-ce que ça va mieux, là? Non.
Ça dépend. Voilà, maintenant, ça va mieux. Voilà. Donc, la Bible, d'ailleurs, c'était intéressant. Il y avait 12 prophètes dans la Bible. Donc, ils n'étaient pas nombreux. Et parmi les plus grands, c'était Isaïe. Et Isaïe, bien sûr, il interpellait le roi, les pouvoirs. Ah, il parlait contre la corruption. Et bien sûr, les pouvoirs n'aiment pas cela. Donc, le roi a envoyé la police pour se saisir de lui. Il s'était caché dans l'arbre. Et qu'est-ce qu'a fait la police ? A scié l'arbre avec les prophètes. Quel symbole extraordinaire. Je veux dire, l'écologie est importante quand l'homme est dans l'arbre. L'arbre seul, sans les hommes, à quoi sert-il? Si, parfois, au singe, pour sauter d'une branche à l'autre. C'est pour ça, d'ailleurs, que les arbres ont besoin beaucoup de branches.
On reparlera des branches tout à l'heure, parce que je pense qu'il y aura quelque chose. Alors, on va revenir au livre que vous venez publier, Le Juif, qui est un roman d'espionnage. Pourquoi ce choix d'écriture ?
C'est pas un roman d'espionnage, ça veut dire tous les romans sont des romans d'espionnage. Vous prenez Victor Hugo, son livre le plus connu, hein, qui m'a fait connaître Cosette et Gavroche. Et ça commence par un policier, Javert, qui poursuit le pauvre type, là, qui fait que du bien. Mais le flic est toujours derrière lui, et jusqu'au bout, on se demande si le pauvre Jean Valjean s'en sortira ou s'en sortira pas. Les romans, c'est comme ça. Les romans, il y a des personnages, il y a un environnement, et puis il y a une intrigue. Et l'auteur parle à travers ses personnages. L'auteur n'apparaît pas. Si parfois il peut dire « je », il y a encore. Et puis, il faut savoir que dans le roman, on n'invente rien. Je vais dire qu'avant moi, il y avait tant et tant d'écrivains. Je vous donne un exemple. Moi, j'aime beaucoup « La guerre et la paix » de Tolstoï. C'est un type génial. D'abord, la guerre et la paix commence 20 premières pages en français dans le texte. Il aimait tellement la France qu'il a commencé à écrire en français. Et il adorait Stendhal. Donc il a relu la Chartreuse de Parme
avant d'écrire son propre livre. Et il y a parfois des gestes. Il y a un personnage qui s'appelle Pierre Bezoukhov, un humaniste. On est en pleine guerre napoléonienne. Tout se passe à l'époque où Napoléon, je ne sais pas pourquoi, il s'est lancé dans une aventure. D'ailleurs, on ne gagne jamais contre la Russie. Pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est un pays trop vaste. Personne ne peut occuper un pays aussi vaste, sauf si on a 20 millions de soldats. Donc, il y a la guerre, et Bezoukhov, lui, il adore, c'est un russe, mais il adore Napoléon, parce que Napoléon apporte, en même temps que la guerre, il apporte aussi des idées. Il a donné l'indépendance à la Pologne, on a oublié. Il parle de la liberté, il parle des droits de l'homme. Donc, il admire, Moscou brûle, il est là avec son revolver, s'est dit, je vais quand même les tuer. Et au dernier moment, il voit passer Napoléon, il ne les tue pas parce qu'il admire. Et il est blessé lui-même. Et on les ramène dans sa datcha, on les met au lit, les draps sont amidonnés parce qu'à l'Est, on abidonne les draps. En Pologne, à Varsovie, tous les draps, les nappes, tout était amidonné. Et en Russie, la même chose. Et on lui apporte un bol du thé. Et il prend ce bol du thé entre deux mains, il hume le thé et il dit que c'est bon. C'est idiot, c'est simple. Mais c'est un mot visuel que j'ai repris dans mon roman, ce geste. Mon personnage, il est persécuté, il est pourchassé. Parce que l'histoire de mon personnage, il s'appelle juif, mais il n'est pas juif. Il aurait pu être Dreyfus, sauf que Dreyfus était vraiment juif. Tandis que celui-là, pas du tout, il est un Picard. Pourquoi Picard? Parce que je connais la Picardie. Parce que j'y habitais, parce que j'aime bien les champs de betteraves. C'est magnifique, les champs de betteraves. Puis il y a plein de croix, c'est la bataille de la Somme. Et puis il y a un lien avec la plus belle des cathédrales gothiques du monde, extraordinaire, et que vous ne savez pas, qui est gardée par deux rois juifs, Salomon et Hérode. Salomon qui a donné la gloire à Israël, et Hérode qui a enterré Israël. C'est intéressant. C'est-à-dire comment la réalité dépasse la fiction. Est-ce que vous savez, à ce propos, on a beaucoup parlé de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris a brûlé, d'ailleurs Victor Hugo a prévu dans Notre-Dame de Paris, il raconte l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et vous avez la façade, et sur la façade vous avez 28 personnages. Qui sont ces personnages?
Les rois d'Israël.
Les rois d'Israël. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'était les premiers rois bénis par Dieu un, invisible. Ce ne sont pas des idoles. Donc toutes les royautés du monde se référaient à ces rois, David, Salomon, etc. Alors pendant la Révolution, les révolutionnaires pensaient que c'était les rois catholiques, puisqu'on venait de couper la tête d'un roi. Alors ils ont décidé de couper la tête des rois qui figurent sur la façade de Notre-Dame. Mais comme ils avaient quand même un peu peur, Dieu existe peut-être quand même, donc ils ont déposé leur tête à Père-Lachaise. Et après la Révolution, ils ont appris qu'ils sont trompés, ce n'était pas les rois catholiques. Donc ils sont allés chercher les têtes, ils ont récollé, mais comme ils n'ont pas numéroté, donc on n'est pas sûr que les têtes reposent sous les corps tels qu'on pense, parce que ça commence toujours par Saül, David, Salomon, et ainsi de suite. Bon, donc, l'environnement l'auteur prend là où il a vécu, c'est son environnement. Pour ça, Balzac, par exemple, si vous voulez savoir comment travaillait une imprimerie à l'époque de Balzac, à Angoulême, hein, vous prenez un livre de Balzac et vous savez, il donne avec une précision extraordinaire. Dans le roman, la précision, c'est la plus belle des poésies. Les gens pensent qu'ils font la poésie quand c'est imprécis. Ce n'est pas du tout vrai. Plus c'est précis, plus c'est poétique, plus ça sonne bien à l'oreille. Mozart était précis. Donc, j'ai pris un personnage qui est un Picard catholique dans un village où j'ai vécu qui s'appelle Auteux, entre Doulan et Amiens. Amiens, pas loin, Arras, oui. Il y a aussi une très belle place à Arras, la place d'Espagne. Mais voilà, il a une petite infection quand il est sur son zizi, on lui coupe le prépuce, et voilà, circoncis. Et pour ses camarades à l'école maternelle, il est juif. À l'école, il est juif. À l'université, il est juif. Alors, à l'université, il explique à ses camarades la raison de cette circoncision. Il n'est pas juif. Mais il rigole quand même. Ah, notre juif adoré. Et tout doucement, et ça c'est la théorie de Sartre, nous sommes ce que nous sommes dans les regards des autres. Nous, on ne se voit pas. J'ai raconté à cette belle Hélène, Marie-Hélène, j'allais dire belle Hélène, voilà, que j'ai découvert que j'avais 90 ans. Pas parce que j'ai regardé ma carte d'identité, moi, j'ai complètement oublié, là, j'ai tant de projets, c'est que je suis descendu dans le métro, et à un moment donné, il y a une jeune fille, plutôt jolie, qui s'élève. Et je pensais qu'elle venait me dire bonjour, pas du tout, elle m'a laissé sa place. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis remonté, je me suis regardé dans la glace et j'ai regardé ma carte d'identité et j'ai découvert que bientôt j'aurai 90 ans et tu es venu à mon anniversaire. On était 200, puis la Drugstore Publicis pour fêter ça était très sympathique avec des orchestres, etc. Et puis j'ai donné rendez-vous à tous mes amis dans 10 ans pour mes 100 ans. Alors,
je vais essayer de poser quelques questions, mais c'est pas grave. On va se tutoyer parce que, en fait, c'est trop bizarre que je dise vous et que tu me dises tu. Voilà. Donc, on va faire simple. Tu parlais justement de Sartre quand on dit nous sommes ce que nous sommes dans le regard des autres. Qu'est-ce que ça peut dire cette phrase justement sur les conflits et la paix, sur la guerre et la paix? Nous sommes ce que nous sommes dans le regard des autres.
Parce que là, nous nous sommes trompés. Nous vivons dans un pays qui a inventé l'idée de l'homme universel. C'est Voltaire qui a écrit le premier traité de la tolérance. Et pour lui, c'était clair. On doit être tolérant parce que l'autre, c'est comme moi. C'est-à-dire, nous sommes tous égaux, nous sommes tous pareils. C'est pas la même chose. On peut être pas pareil et avoir les mêmes droits, mais pour lui, on était tous pareils. Et à la fin de son livre, qui est magnifique, c'était une révolution, on était en pleine guerre de religion. C'est-à-dire, là, il a pris la défense des protestants qu'on brûlait pas loin de là, sur la grande place de Bruxelles, une des plus belles places du monde. Et à la fin de son livre, si vous le reprenez, si vous avez la patience de relire, il devient islamophobe et antisémite. C'est curieux. Il écrit même une pièce qui s'appelle Mahomet, que si on devait la jouer aujourd'hui, toutes les voitures de la région seront brûlées en 5 minutes. Et pourquoi il est arrivé, lui qui faisait un livre sur la tolérance, il est arrivé à un tel degré d'intolérance? Parce que les juifs et les musulmans échappaient à son cadre dans lequel il voulait mettre tous les hommes. Puisque nous sommes pareils, on doit s'aimer parce que nous sommes pareils. C'est pas vrai. On doit l'aimer l'autre parce qu'il est différent. Sinon, on sera tous narcissiques. On s'aimera soi-même, bien sûr. On passera notre temps à nous regarder dans la glace comme Narcisse, hein, dans la fontaine.
Narcisse en est mort.
Ben, beaucoup de gens en meurent d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes plus nombreux sur la terre. Donc, il y a deux mots qui sont les plus cités dans les Écritures, que ce soit la Bible, le Nouveau Testament et même les Corans. C'est la paix, shalom. Déjà dans les évangiles, il y a une condition. Paix sur vous, hommes de bonne volonté. Cela veut dire qu'il faut avoir de la bonne volonté pour accepter la paix avec ses voisins. Donc il y a une condition. Or, la paix ne supporte pas des conditions. J'accepte l'autre, il est différent, il peut me déplaire, etc. Mais je pars du principe qu'il a droit à mon amour. Il a droit à mon amour. C'est pas seulement je dois l'aimer. Lui, il a droit, c'est un droit. C'est pas simple le mot paix. Alors, Freud, on lui a demandé un jour, il raconte ça dans Malaise dans la civilisation, on lui a demandé quand d'après lui est née la civilisation. Et là, on arrivera peut-être à la clé de ta question, qui est une porte, après on peut ouvrir. Il dit, je ne sais pas, mais je m'imagine, répond-il, qu'à l'époque où les hommes vivaient dans les grottes, donc chaque tribu ou chaque famille avait une grotte, et qui jalousait la grotte de l'autre famille qui paraissait plus grande. C'est toujours comme ça. La maison de l'autre paraît toujours plus grande et on s'est dit, merde, pourquoi la leur a des fenêtres plus grandes que les miennes, etc. Viens mesurer, tu verras, sont les mêmes fenêtres. Non. Voilà. Donc, tu ne convoiteras pas les biens d'autrui, c'est un des 10 commandements. C'est intéressant. Le plus beau texte de l'histoire, c'est ça, c'est les 10 commandements. Tout y est. Et alors, dit Freud, un jour, deux types sortent chacun de sa grotte avec une énorme pierre pour tuer son voisin, pour prendre sa grotte. Ils se retrouvent face à face, on s'imagine, un énorme type avec des pierres énormes. Et pour une raison, dit Freud, qu'il ne comprend pas pourquoi, un lâche la pierre et jette à la figure de son voisin une insulte. Là commence la civilisation. Ça veut dire qu'on remplace la violence pure par la parole. On passe à un autre stade, à un autre moyen de communication. On parle. Et là, c'est quelque chose d'assez intéressant, ce qu'il dit. Ça veut dire que l'invention, la plus belle invention de l'histoire, c'est pas l'homme, c'est la parole. C'est les mots. D'ailleurs, Michée, il y a un des prophètes, P. prophétiens, parce qu'il y a des petits prophètes et des grands prophètes. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Mais il y a Michée, c'est un des petits prophètes. Il parle au nom des dieux. Il dit, prenez vos mains pleines de mots et venez vers moi, vers Dieu. Le meilleur cadeau qu'on puisse faire à Dieu, c'est les mots. D'ailleurs, si vous avez lu Gargantua et Pantagruel, magnifique, sont des livres magnifiques, écrits par Rabelais, qui parlait l'hébreu mieux que moi, parce qu'il a étudié la médecine à l'université de Montpellier, où sont les rabbins qui enseignaient la médecine à l'université de Montpellier. Si vous arrivez à l'université de Montpellier, il y a un mur, et c'est marqué les noms de tous les rabbins qui ont enseigné la médecine. Donc dans Pantagruel, qui voyage beaucoup, hein, il traverse la mer des glaces et il a faim, parce que ce sont deux géants qui ont tout le temps faim. Donc on lui prépare son dîner, 30 bœufs, 40 chèvres, 100 poulets, etc. Il fait un grand feu, on rôtit tout ça. Et à un moment donné, il entend parler, crier, chanter. Et il prend peur, il ne voit rien. Il y a la glace partout, tout est gelé. Alors il fait venir ses savants, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu as réchauffé l'air. Or, les mots qu'on prononce restent. Tout ce qu'on dit, tout ce que nous disons là, intelligent, pas intelligent, bête, idiot, agressif, tout reste. Tout est enregistré. On n'entend pas. Mais à un moment donné, d'ailleurs, c'était Jules Verne à Amiens, il imaginait une machine qui peut réentendre les voix de nos ancêtres. Donc, en réchauffant l'atmosphère, en préparant son repas, il a entendu des voix des gens qui vivaient avant lui. C'est la force de l'homme, c'est la parole. On parle, on échange, mais la parole avait besoin de l'écriture. Parce qu'on ne peut pas parler à des millions d'individus en même temps. Mais on peut partager la parole écrite. Alors avant, c'était sur des tablettes. Une tablette, vous allez au premier étage du Louvre, vous en avez plein, de l'époque sumérienne. Après, il y avait des rouleaux. Et après, l'imprimerie depuis Gutenberg. Et un de mes ancêtres, d'ailleurs, a travaillé avec Gutenberg à la Montagne Verte à Strasbourg. C'est pour ça que je suis tellement malin. Parce que en écrivant la mémoire d'Abraham, j'ai découvert tout ça. Vous savez, on n'est né pas avec le savoir. Le savoir, c'est une conquête constante. Et puis on est content, on a appris quelque chose. Et puis on partage avec les autres. C'est extraordinaire. Bon, donc, et ça, c'est la force des hommes. Alors, la paix, on arrive, c'est un moyen.
Alors justement, je voulais poser une question au niveau de la paix. Tu dis que c'est un mot qui est de moins en moins utilisé. Je t'ai entendu dire ça. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu aux spectateurs qui sont là ce soir?
Oui.
Avant, on parlait beaucoup de la paix et aujourd'hui, visiblement, on n'en parle plus. C'est ce que tu as remarqué en tout cas.
C'est vrai. C'est vrai, j'ai remarqué, je n'ai pas encore analysé pourquoi, mais la génération précédente, deux, trois générations précédentes, parlait beaucoup de la paix. Avant la Première Guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale, et les gens qui voulaient la paix, on les tuait. Jaurès a été tué, Gandhi a été tué, Martin Luther King a été tué, Sadat a été tué, Rabin a été tué. C'est dangereux de parler la paix. Parce qu'il y a trop d'intérêts hein, pour faire marcher les mondes. Vous savez, les marchés les plus juteux aujourd'hui, c'est l'armement. On a encore voté, le Parlement européen a voté 400 milliards pour l'achat des armes. Ça veut dire qu'on pense que dans 8 ans, on va encore tuer des gens en Ukraine, ou peut-être ailleurs, peu importe. Mais on aura besoin des armes de plus en plus sophistiquées. Ça fait travailler les gens. Ça fait gagner de l'argent, etc. Donc, c'est lui qui s'élève. Il dit, non, je veux la paix. Ça veut dire qu'il va demander la destruction des armes, pas seulement atomiques, des armes tout court, des kalachnikovs, des revolvers, etc. Bon. Donc, c'est... Alors, la paix, du coup, ce n'est pas que l'homme a changé, mais... Les rêves a changé. Donc ceux qui s'opposaient à cet ordre du monde qui était régulé par la force, par la puissance d'argent, ils sortaient dans la rue et ils criaient la paix. Ça, beaucoup d'entre vous s'en souviennent. Les grandes manifestations contre la guerre du Vietnam. Qu'est-ce qu'on criait ? Paix au Vietnam. Paix au Vietnam. Aujourd'hui, on ne dit pas paix en Ukraine. Personne ne dit paix en Ukraine. On est pour l'Ukraine contre le méchant Poutine. On ne dit pas paix à Gaza. On est contre le méchant Netanyahou, etc. On ne dit pas « paix au Yémen ». Personne n'utilise plus le mot « paix ». Alors, il y avait les grands mouvements pour la paix mondiale. Le Parti communiste, d'ailleurs, tenait et prospérait grâce à la paix. La colombe de Picasso, c'était l'emblème du Parti communiste français. Ça mobilisait des générations, des gens. Je me souviens, Bob Dylan, qui est venu à Paris, John Baez, en pleine guerre du Vietnam, ils ont manifesté ensemble pour la paix. Aujourd'hui, si vous appelez des gens à manifester pour la paix, vous serez tout seul. On sera moins nombreux qu'ici, dans cette salle. Alors la question se pose pourquoi que je n'ai pas trouvé de réponse. De toute manière, chaque génération a besoin d'un rêve commun. L'homme ne peut pas vivre sans rêve. La vie est courte, même si on disait tout à l'heure avec notre ami que des gens vivent à 100 ans, 120 ans comme Moïse, c'est le maximum. Mais donc on est angoissé. On voit autour de nous des amis disparaître et on s'est dit merde, je vais disparaître aussi. C'est pas gai, quoi. C'est pas joyeux. La perspective n'est pas joyeuse. Donc il faut qu'on ait quelque chose qui transcende cette angoisse permanente dans laquelle nous vivons. Un monde dans la paix, c'est extraordinaire. Or, ça ne marche plus. Alors, il faut inventer un rêve. Quel monde, dans quel monde on voudrait que nos enfants vivent ? Dans quel monde ? On n'y a pas pensé. Personne n'est là pour nous proposer. Il y a des gens qui veulent durcir celui qui est là, d'autres préserver tel qu'il est. Mais personne ne nous propose aujourd'hui quelque chose. C'est pour ça que j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Un monde sans prophète ».
Oui. Et d'ailleurs, tu disais qu'il n'y avait plus de prophète aujourd'hui.
Et parce que comme on n'a pas d'idée, on n'a pas de prophète. Parce qu'un prophète, c'est celui qui est porteur d'idées. S'il n'a rien apporté, c'est comme les porteurs à l'aéroport. S'ils n'ont plus de valises à porter, il n'y a plus de porteurs. Donc, tout s'étient. Donc il faut, et je pense qu'il y aura parmi ceux qui grandissent aujourd'hui, quelqu'un ou quelques-uns qui vont inventer un rêve. Et nous, ou nos enfants, vont y adhérer. Et ils vont de nouveau descendre dans la rue pour partager avec les autres, chanter, préparer des pièces de théâtre comme Bertolt Brecht. L'humanité ne va pas disparaître, sauf si vraiment on veut utiliser toutes ces armes qu'on fabrique pour des centaines de milliards d'euros pour détruire l'humanité. Il y aura toujours un Robinson Crusoe qui se retrouvera sur une île déserte et qui trouvera un vendredi avec qui il pourra parler, parce qu'on aura besoin de parler à quelqu'un.
Alors, on aura besoin de la parole. Ce que je voudrais te demander, c'est, tu aimes bien citer Anne Frank qui disait « Je continue à croire que l'homme est profondément bon et généreux ». Et j'aimerais savoir ce qui, dans ton parcours, t'a le plus forgé humainement. Est-ce que c'est la main tendue? Et je fais référence à une anecdote que tu as vécue enfant, ou les rejets que chacun peut vivre. Qu'est-ce qui t'a justement, dans ton parcours, le plus forgé? C'est la main tendue?
Oui, ben là aussi, j'ai vécu une chose, mais après j'ai vu que Primo Levi a vécu la même chose. Comme quoi, on n'est jamais seul. On s'imagine qu'on est unique. Et puis on se rend compte qu'il y a d'autres gens qui ont vécu la même chose, différemment, dans d'autres circonstances. Nous avons pu échapper au ghetto de Varsovie grâce à des amis catholiques. Mon père était chef des syndicats des imprimeurs. Dans le syndicat, il y avait des juifs, des catholiques, des protestants, et ainsi de suite. Et ses amis catholiques sont venus nous chercher une nuit. J'avais quoi, 4 ans. Et on dit, maintenant, il faut partir parce que les portes des ghettos vont fermer. C'est le moment. Là, j'ai appris tout. Mon père a commencé à négocier, à tout, où est-ce qu'on va aller. La France, l'Angleterre vont entrer en guerre, vont nous sauver. Pendant qu'il lui discutait, ma mère avait préparé le baluchon, m'a pris par la main et on dit on s'en va. Donc j'ai appris très tôt que la femme est beaucoup plus rapide que l'homme. Qu'elle a beaucoup plus de sens, de réel et de la vie. Elle donne la vie. Et des années plus tard, j'ai rencontré plein d'hommes politiques, de présidents, de chefs d'État, de terroristes, etc. Mais ce sont deux femmes qui m'ont frappé. C'était Golda Meir et Angela Merkel. Parce qu'elles étaient des femmes. Parce qu'elles réagissaient. Golda Meir m'a dit une phrase qui était extraordinaire. On peut croire ou pas, mais elle les croyait. Elle dit, j'en veux à ceux qui tuent nos enfants. Mais j'en veux encore plus à ceux qui nous obligent à tuer les leurs. C'est seulement une femme qui pouvait le dire. Elle les sentait ou pas, peu importe. Mais déjà, il fallait penser. Un homme n'aurait jamais dit ça. Jamais. Angela Merkel, bon, on massacrait les gens en Syrie. 1 million de Syriens, on ne savait pas quoi en faire. Elle a dit, moi je les prends. Parce que c'est une femme. Donc, j'ai appris une femme. Et puis, deuxième chose que j'ai appris, c'est que ma mère après disait que le meilleur mensonge, c'est la vérité. Nous, on passe un temps fou à inventer des histoires, des excuses. On rentre tard à la maison. Qu'est-ce qu'on va dire à notre femme? Qu'est-ce qu'on va faire avec mon père, avec ma mère, etc. Le mieux, c'est de dire la vérité. Pourquoi? Parce que les gens ne croient pas la vérité. Donc, c'est pas la peine d'inventer des choses. Alors, notre petit groupe, parce que la Pologne était coupée en deux. C'était le pacte Hitler-Staline. Donc une partie de la Pologne était occupée par les nazis, l'autre partie par la Russie. Donc il fallait passer des côtés russes. Et en route, il y a une patrouille d'armée allemande qui nous arrête. Elle dit, hey, stop, Juden, juif. Alors, personne ne répond. Et moi, j'ai dit, ya, oui. Alors, j'ai sautillé, paraît-il, comme un cabri, disait le général de Gaulle. Oui. Et les Allemands sont mis à rire, ils disent, laissez-les passer. Les gosses rigolent, les juifs ne reconnaissent jamais sa judaïté. La vérité, ça a marché. On passe, on arrive chez les Russes, de nouveau, stop. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Du ghetto de Varsovie. Retournez. C'est le premier mot en russe que j'ai appris. Davai nazad. Retournez d'où venez. Alors ma mère, je me souviens, s'est mise à pleurer. Elle était enceinte, etc. Bon. Et mon père, il a eu un réflexe. Il a sorti sa carte du chef des syndicats des imprimeurs. Il a dit, camarade, tavarish. Nous sommes tavarish, nous sommes camarades. Et les soldats, un peu surpris, il a pris sa carte, il a regardé, il est allé téléphoner, il est revenu. Deuxième mot russe que j'ai appris, Dobro pozdravovat, bienvenue, et on était sauvés. Alors on s'est retrouvés à Moscou, les Allemands nous ont suivis, Moscou était sous les bombes, Staline nous a envoyés au Kazakhstan, puis en Ouzbékistan. Et au Kazakhstan, on est arrivé à Almaty, où ma petite sœur est morte de faim, mes parents étaient malades, j'étais tout seul. Une ville de 300 000 habitants, 1 million de réfugiés qui crèvaient de faim. On avait droit chacun à 50 grammes de pain par jour. On avait des cartes, des ravitaillements. Il paraît que j'étais squelettique. Je marchais dans les souks. Ce sont des pays musulmans dans le marché. Et à un moment donné, un vieux Khazar me dit, Malchik, garçon, viens ici. Et il m'a tendu une pioche comme une petite galette. Il dit, mange petit, sinon tu mourras de faim. Et j'ai raconté ça des années plus tard à un homme qui était président de la République française, François Hollande. Et je lui dis, il était très ému, c'était pas un grand président, mais un type gentil. Et il me dit, mais c'est formidable ton histoire, alors cette galette. J'ai dit, c'est le geste qui m'a sauvé la vie. C'est-à-dire, à l'âge de 7 ans, j'ai découvert la solidarité. Il y a un mot solidarité, c'est une abstraction. D'un seul coup, c'est devenu une réalité. Ah bon, dit-il, qu'est-ce que tu veux faire? Je voudrais les remercier. Si tu venais avec moi, on va leur offrir une Sorbonne. Sorbonne, Kazakhstan, pour remercier pour la petite galette. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux? C'est partager les savoirs. Nous, on s'est battu contre le système de goulag, etc. Ça y est, il n'y a plus de goulag. Donc, il faut quand même qu'ils apprennent ce que c'est, la liberté, la démocratie, etc. Et on est allé, et on a ouvert une Sorbonne à Almaty, qui marche très bien aujourd'hui. Puis, j'ai créé un comité pour la paix au Moyen-Orient, dont il y avait beaucoup d'écrivains italiens qui en faisaient partie, Giorgio Bassani, il y avait Moravia, il y avait Primo Levi. Et je raconte ça à Primo Levi, et Primo Levi dit, mais moi je l'ai décrit cette histoire dans mon livre. Alors j'ai dit, mais quel livre? Et lui il raconte qu'à Auschwitz, il partageait un matelas avec un maçon italien. Il n'était pas juif, il était communiste. Et lui, Primo Levi, c'est un homme frêle, c'est un chimiste, et il est tombé malade. Et les maçons s'élevaient, ils prenaient les deux gamelles, il est allé chercher quelques cuillerées de soupe, et il partageait cette soupe avec Primo Levi. Et Primo Levi dit, c'est pas la soupe qui m'a sauvé la vie, c'est les gestes. Comme quoi on n'en vend rien, c'est extraordinaire. Mais ce sont deux situations différentes.
Deux situations différentes qui ont en fait le même sens, c'est-à-dire la solidarité.
Oui, entre les hommes, ça veut dire que c'est là où on découvre que l'autre, il est différent. Et pourtant, il est comme moi. C'est ça qu'il faut apprendre. Il ne faut pas essayer de transformer l'autre en double de moi. Le racisme vient de quoi, en vérité? Il y a parmi nous, il y a des Noirs, il y a des Pakistanais, il y a des Chinois, il y a des Arabes, etc. Qu'est-ce qu'on veut des Arabes? Qu'ils deviennent comme nous. Ils ne deviendront pas comme nous. Parce que chacun a sa mémoire collective et sa mémoire individuelle. Ses habitudes, ses traditions, sa culture culinaire. En Pologne, on ne savait pas ce que c'était couscous. Ah oui? Ou bœuf bourguignon. Il y avait le borscht. Donc, ça, c'est très, très difficile. C'est un apprentissage de dire l'autre, il paraît complètement différent de moi, et pourtant, c'est mon frère. Et si on oublie ça, on les tue. La Bible commence comme ça, d'ailleurs. Les premiers meurtres, c'est un fratricide. C'est Caïn qui tue Abel. Parce qu'Abel paraît différent de lui. Il ne s'y retrouve pas. C'est extraordinaire. À quoi sert la littérature? À quoi sert la religion? C'est à ça. Ça veut dire qu'elle nous fait réfléchir sur la condition humaine. Et en découvrant, on s'améliore. On s'améliore, on change d'attitude, de manière... encore un exemple. Moi, j'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est une des plus grandes inventions de Dieu, disons, c'est la parole, c'est donné. Nous sommes les seuls êtres vivants sur cette terre qui parlent. Alors, on s'imagine que les chiens parlent, que les chats parlent, que les chimpanzés parlent. Si, ils communiquent, mais ils ne parlent pas, c'est pas la même chose. Parler, c'est de pouvoir dire des abstractions. C'est pour ça que l'invention de l'alphabet cunéiforme abstrait en Mésopotamie a changé complètement le monde. Chez les Égyptiens étaient à deux doigts de comprendre qu'il y a un seul Dieu. Et pourquoi ils n'ont pas inventé ces dieux? Parce qu'ils ne savaient pas l'écrire. Parce qu'avec les pictogrammes, on ne pouvait pas dire une abstraction. Chez les fresques de l'époque de Ramsès II, quand les peintres voulaient montrer un amour entre homme et femme, donc on voit un homme en face d'une femme et il s'étend la main. Alors, on peut comprendre comme on veut. pouvait pas dire l'amour. On ne pouvait pas dire la liberté. Moïse est le premier à introduire le mot liberté. Chaque mot est une conquête extraordinaire, on ne se rend pas compte. Nous, on les utilise comme on prend des fourchettes, peu importe, elle est en bois ou en acier, etc., pour manger nos steaks. Mais il fallait l'inventer, cette fourchette. Il fallait inventer les mots, déjà. Pourquoi fourchette ?
Alors, justement, comme tu parles des mots, et comme on parle de la paix, comment on pourrait parler à ses ennemis dans un contexte de haine ? Par le biais de la culture, quel chemin et est-ce que tu as des exemples à donner pour savoir justement la paix à quel prix? Est-ce que ça peut être au prix aussi de la connaissance de l'autre, de la culture de l'autre, pour mieux se comprendre et,
alors, le prix, la paix n'a pas de prix. Partons déjà de principe.
Mais
on ne l'achète pas.
Mais la guerre a un prix.
La guerre en est pris, voilà. La guerre coûte cher. La paix n'a pas de prix. Alors, il faut partir, bon, il faut, moi j'en sais rien, c'est une expérience personnelle, chacun de vous pourrait en avoir une autre. Il m'est arrivé d'aller voir des gens, serrer la main des gens, tout à fait infréquentables. Je me souviens, il y avait un présentateur à la télévision, très connu en France, Jacques Chancel. Et un jour, en direct, il me dit, vous, Marek, vous êtes prêt de parler avec n'importe qui? Je dis, avec n'importe qui. Supposons que demain, vous recevez une invitation d'un type comme Hitler. Vous vous rendez à son invitation? Je dis oui. Sauf que Hitler n'aurait jamais invité, parce qu'il aurait préféré me voir sous forme d'une petite savonnette. Le jour où quelqu'un comme Hitler m'invitait, il me donne une chance déjà de m'exprimer et d'échanger son attitude envers moi. Parce que là, on est en égalité. Si chacun, on est comme dans le western américain, qui tire plus vite, je ne tire pas plus vite que l'autre. Donc je suis mort. Et un jour, justement, Je vois, tu veux m'amener où tu veux m'amener. Il y avait un soldat israélien, c'était il y a 15 ans, peut-être plus, 17 ans. Gilad Shalit a été enlevé par le Hamas, qui à l'époque s'est trouvé à Damas, chez Assad. Et les Israéliens ont tout essayé, ils ont proposé 1100 prisonniers palestiniens, la liberté pour 1100 prisonniers en échange d'un seul soldat. Et le Hamas ne voulait pas. Puis un jour, j'ai reçu un coup de fil de l'ambassadeur d'Israël en France, Dany Sheikh. Il dit, écoute Marek, j'ai chez moi les pères de Gilad Shalit. Il a fait le tour de tous les hommes politiques en Europe. Tout le monde lui a promis d'intervenir. C'est un père. Et il veut sauver son fils, c'est normal. Et il veut voir te voir. J'ai dit, venez. Tant qu'ils viennent, alors il y a un monsieur, le plus âgé, il est venu avec des paquets énormes, des journaux, bon, toute la presse mondiale en a parlé. C'est plus facile de mobiliser les gens pour une seule vie que pour 1 million de vies. Un enfant qui, sur une plage squelettique, que les vagues rejettent parce qu'il était affamé, bouleverse les gens. Des fosses communes ne bouleversent personne. Parce qu'ils ne sont pas capables de digérer trop de malheurs à la fois. Donc, arrive ce monsieur avec ses journaux, il dit, vous avez les contacts avec les Palestiniens, J'avais créé à l'époque le comité pour la paix négociée au Proche-Orient avec une revue qui s'appelait Éléments, où les écrivains israéliens, arabes, palestiniens écrivaient ensemble. Bon. Il y avait Clara Malraux et ma femme qui s'appelait Clara à l'époque aussi, donc il y avait les deux Clara qui dirigeaient cette revue. Vous pouvez m'aider. Écoutez, vous avez tout essayé, je n'ai pas plus de pouvoir, mais attendez, je vais essayer. J'avais une amie qui était la fille du ministre de l'Intérieur d'Assad, syrienne, elle-même très riche, la femme d'un Saoudien. Je l'appelle, j'ai dit, Naed, est-ce que tu connais le chef de Hamas, Khaled Meshal? J'ai dit oui, on était à l'université ensemble à Damas. Est-ce que tu peux m'organiser un rendez-vous? Et deux jours plus tard, on est parti, elle, ma femme, moi, tous les trois, on est parti à Damas. Donc j'ai dû serrer la main d'Assad, c'est lui qui se cache maintenant à Moscou. Et Assad a organisé un rendez-vous avec Khaled Meshal, qui est toujours vivant d'ailleurs, on voit ses photos souvent dans la presse. Il avait une villa à côté de Damas, il y avait plein de gens avec des Kalachnikovs qui les gardaient. Ça m'a toujours posé problème de voir tous ces gens avec les Kalachnikovs comme si ils étaient impotents, comme s'ils voulaient montrer leur sexe, montrer qu'ils sont là, qu'ils existent. Vous n'avez pas besoin de Kalachnikov. Vous êtes en Syrie, partout il y a l'armée d'Assad. Bon. Donc, on rentre, on me fait monter au premier étage, la porte s'ouvre, il y a un type qui ouvre la porte, est plutôt sympathique. Village sympathique. J'ai dit, mais vous avez l'air sympathique, je lui ai dit. Alors, il était un peu surpris. Il dit, oui, si demain il devait y avoir un État palestinien à côté d'Israël, je vous vois très bien comme président de cet État. Il était tellement surpris qu'il m'a pris dans les bras. Mais cette histoire, je ne l'ai pas inventée. Elle existe. Vous connaissez, vous avez entendu parler de Josephus Flavius, qui a écrit La guerre des Juifs. C'est les premiers qui parlaient d'ailleurs de Jésus. C'est le premier témoin qui a écrit avec Tacite, les deux premiers. Et il raconte la guerre des Juifs, 70 de notre ère. Et la destruction des temples. Et il raconte une histoire qui m'a frappé. Il était un des chefs de la révolte, donc enchaîné. À l'époque, on enchaînait avec de grosses chaînes. Et puis, il y a un groupe de Romains qui passe devant. Et il voit un des Romains, un peu plus corpulent, et il lui crie en grec, parce que les Romains parlaient grec. César, César! Et le type se retourne et dit: je ne suis pas César, je suis le général Vespasien. Le lendemain, on apprend que Néron, qui était César, était poignardé. Les légions votent pour ce Vespasien pour remplacer Néron. Et il se souvient de ses cris, de ces juifs enchaînés, il dit, trouvez-moi ce juif qui a prédit mon ascension. Et ces juifs, donc, Josephus Flavius, devient l'historien de l'Empire romain, et nous savons tout ce qui s'est passé grâce à lui, parce que ses livres sont là. Donc, j'ai fait exactement ce qu'a dit Josephus Flavius. Donc Khaled Meshal nous fait entrer, nous sert des cafés, et je vois sur son bureau photo de deux filles. J'ai dit, sont vos filles? Elle dit oui. Comment elles s'appellent? Elle me dit, qu'est-ce qu'elles font? Il y a une qui étudie la médecine, l'autre veut être avocate, qui ne travaille pas très bien. J'ai appris que vous dirigez plusieurs universités, vous pourrez peut-être l'aider parce qu'elle étudie en Angleterre. Et puis, pendant une demi-heure, il me parle de ses filles, un papa. Tout terroriste, c'est là où j'ai compris. Sur le visage de quelqu'un, on ne voit pas s'il est capable de tuer ou pas. Ce n'est pas vrai. Dostoïevski le décrit très bien dans les démons. Des gens s'entretuent, les terroristes, Stavrougine, etc. Mais ce n'est pas écrit sur leur visage. Il y a des tueurs au visage d'ange, comme on dit. Donc, on ne voit pas, c'est un papa. Je lui demande où est-ce qu'il a connu sa femme. Il commence à me raconter comment il a connu sa femme à Damas, etc. Et à un moment donné, il m'interrompt, il dit, vous n'êtes quand même pas venu me parler de moi. Malin. J'ai dit, c'est vrai, vous avez raison, mais vous m'intéressez. Et je me suis dit, en vous écoutant, que si une de vos filles était enlevée par les Israéliens, vous ferez quoi? Et là, il m'a montré qu'il n'est pas idiot. Il me dit, je chercherai quelqu'un comme vous comme intermédiaire. Une semaine après, il était libéré, j'étais à son mariage. Son père est déjà mort. Lui, il est en Israël, il a deux enfants, etc. Donc, rien que grâce à la parole, sauver une vie humaine, ça vaut la peine. Je n'ai rien fait d'extraordinaire.
Donc on revient à la question des mots, savoir utiliser le langage, utiliser les mots et s'intéresser à l'autre pour amener quelque part la paix, on peut dire ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, justement, la peur de l'autre est la chose sans doute qui pose le plus de problèmes, parce que en fait chacun a son histoire et tu le démontres bien en racontant ce que tu viens de nous dire. Est-ce que selon toi la diversité peut encore faire communauté aujourd'hui?
Oui, non, mais ce que tu viens de dire là, un mot, tout vient de la peur de l'autre. C'est la peur de l'autre. J'avais un ami, il était pape. Ça fait drôle de dire mon copain le pape, t'es polonais, Karol Wojtyła, Jean-Paul II, on parlait en polonais, et yiddish, parce qu'il était né dans un petit village près de Cracovie, Wojewodowice, où 80% de la population était juive, et tous ses petits camarades étaient juifs. Lui, il voulait faire du théâtre, il avait une très belle voix d'ailleurs. En vérité, il voulait être chanteur. Puis, pendant la guerre, il est rentré dans la cathédrale de Cracovie, il a eu une révélation. C'est arrivé aussi avec Jean-Marie Lustiger dans une autre cathédrale, celle d'Orléans. On est devenu amis parce que l'ambassadeur de France au Vatican, de la Chevalerie, lui a offert mon livre « La mémoire d'Abraham » en polonais. Il y a d'ailleurs quelqu'un m'a appelé ici, une polonaise, m'a dit qu'elle a vu mon livre en polonais. Et il voulait me connaître, donc on a fait connaissance. Et le polonais, chaque groupe humain a ses particularités. Les Polonais sont très patriotes. Tout son staff était composé de Polonais. Cuisinière polonaise, les femmes qui servaient à table polonaise, la nappe amidonnée, comme à l'Est, dans tous les pays de l'Est, amidonnée, etc. Et puis, une fois, d'ailleurs, je lui ai dit un jour, Saint-Père, vous me faites penser à ma mère. Alors il s'est mis à rire, mais vous êtes les premières à me le dire. D'habitude, on me dit mon père, et vous me dites que je vous fais penser à votre mère. Il m'a fait venir, on se voyait tous les mois. On avait une tradition tous les mois. Je prenais l'avion, j'allais. Il y a son second qui s'appelle Stanislas Dziwisz, qui est maintenant archevêque de Cracovie. Donc, il venait me chercher à l'aéroport. Et on allait déjeuner, on passait par la cour de Damas, c'était le seul endroit où il y avait un ascenseur, il est toujours, je pense, le Vatican n'a pas changé, hein, donc on prenait l'ascenseur pour monter, pour déjeuner entre nous. On était trois à table. Et puis un jour, il m'a fait venir en dehors de la journée habituelle. Pourquoi ? Parce qu'il devait s'adresser à 1 million de jeunes catholiques réunis sur la place Saint-Pierre. Et il voulait que j'entende ce qu'il dit. Il est sorti sur le balcon et il a crié « N'ayez pas peur !» Et au début, je n'ai pas très bien compris l'importance de ces cris. Mais c'est lui qui avait raison. Tout commence par la peur. On rencontre quelqu'un qui est différent, on a l'impression qu'il est différent de nous, qui parle différemment, qui est habillé différemment, qui a un turban, etc., qui les sikhs, hein, le barbe accroché avec une petite ficelle en haut, etc. Bon, donc, et tout ce qui est différent nous fait peur. Nous sommes habitués à des gens, à côtoyer des gens comme nous, parce qu'on a déjà l'habitude. Même on est jeune, plus vieux, etc. On s'habitue à des gens. Et la peur fait ressurgir la violence. Vous essayez, vous verrez, si vous êtes au volant, il y a quelqu'un qui passe devant vous, vous freinez votre voiture, vous ne touchez pas la personne qui passe, mais vous lui avez fait peur. Alors comment il réagit? Il commence à taper sur votre carrosserie, il vous commence à vous insulter, vous sortez, vous vous excusez, il continue à vous insulter, vous lui avez fait peur. Vous avez désorganisé son équilibre mental. La peur. Et c'est pour ça que je trouve que nous vivons là un moment dangereux. Parce que tous les dirigeants du monde essaient de nous faire peur. En Europe, demain, les Cosaques vont débarquer sur les Champs-Élysées. Ben, ils étaient déjà sur les Champs-Élysées. Ils sont repartis. Ils nous ont laissé quoi ? Bistrot.
Vite.
C'était des cafés, oui. Mais comme ils étaient pressés, ils disaient bistrot, bistrot, vite, vite, vite. Aujourd'hui, on appelle, on va prendre un café dans un bistrot. Mais ils sont répartis. Mais on essaie de nous faire peur. Et c'est une mauvaise politique, mauvaise stratégie, parce que les hommes qui ont peur, ils sont capables de pire. Parce qu'on commence... La suspicion vient de là. On regarde l'autre. Hein? Pendant l'occupation, les murs ont des oreilles. Attention, on ne peut pas dire n'importe quoi. On nous écoute, on nous épie. On regarde de travers nos voisins. Donc, on passe là un moment dangereux. Alors, pourquoi je reste optimiste? Parce que je connais l'histoire. Parce que l'humanité a traversé beaucoup de moments comme celui-là. Et puis, on s'en est sorti chaque fois par les génies humains. La technologie, tout simplement. qu'est-ce qui se passe dans les écoles, par exemple, aujourd'hui? Pourquoi les enfants étudient mal? Parce qu'ils ne respectent plus leurs professeurs. Ils ne croient pas ce qu'ils disent les professeurs. Ils croient plus ce qu'ils voient sur leur téléphone portable. La technologie a remplacé la véracité de l'histoire que nous portons en nous et nous essayons de partager avec les autres. Les enfants ne croient plus leurs parents. Alors, ils ont peur, ils ont besoin d'argent, des poches, etc. Donc, ils écoutent de temps en temps, par intérêt. Ouais. Mais ils se disent, cause toujours papa. Parce que nous avons perdu notre crédibilité. Pourquoi? C'était notre affaire. Parce qu'on n'a pas tenu la parole. Parce qu'on pensait qu'il suffit d'avoir les cheveux blancs pour dire à son fils, écoute ton papa. Et les fils ne respectent pas plus les cheveux noirs qui roux, qui rouges, etc. Ils s'en foutent, les gosses. Dans les bandes dessinées, les gens ont des cheveux en vert, en bordeaux, etc. Leur imagination va plus vite que nos paroles. Alors, il y a la technologie. Et je me suis rendu compte, j'étais à Istanbul parce que je voulais organiser des bateaux, une flottille pour la paix, avec les représentants de toutes les religions, aller en Ukraine et en Russie, et pour dire stop. Bon, Erdogan ne nous a pas laissé aller, il a dit c'est dangereux, il y a des mines flottantes, etc. Ben, j'avais déjà 3 bateaux, ça m'a coûté de l'argent. J'ai loué, je ne les ai pas achetés. Et puis je suis descendu dans un hôtel près de Bosphore. J'aime bien les passages des bateaux, comme sur le Nil, au Caire. Voir les bateaux passer, les temps passent. C'est extraordinaire. C'est comme Ulysse chez Homère. Et puis j'avais besoin de l'eau minérale. Merci pour l'eau minérale. Non, pas tout de suite. Et alors je téléphone à l'accueil. Une seconde après, on sonne à la porte, j'ouvre, il y a un petit robot. Sir, you need water? Elle dit yes. Donc, il y a une petite porte qui s'ouvre, il y a une bouteille d'eau.
Désolé, il n'y a pas de robot là.
Take it, please. Donc, je prends la bouteille, j'ai dit thank you. You welcome. Anytime. La porte se ferme. Et il s'en va vers l'ascenseur. Et j'ai trouvé ça génial. Ça veut dire qu'il était parfait, le robot. Hein? Mais même s'il n'était pas parfait, je ne pouvais pas m'énerver contre lui parce qu'il n'avait pas de visage. Ça veut dire, je n'avais pas une histoire en face de moi que je devais contredire ou contre laquelle je devais me révolter pour montrer mon indépendance. Qu'est-ce que j'allais montrer à ce pauvre robot? Rien. Je lui ai dit thank you, voilà, c'est tout.
Oui, mais alors du coup, je rebondis là-dessus, c'est quand même un peu limité comme conversation. Ça veut dire que l'échange, la pensée, voilà, il n'y a plus tout ça.
Alors ça dépend maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette technologie? Et ça vaut la peine d'aller voir, c'est intéressant. Ce sont des pays musulmans, Abu Dhabi, où il y a les Louvres d'ailleurs. Jean Nouvel a construit le Louvre magnifique. J'ai inauguré la Sorbonne à Abu Dhabi, qui est pleine, qui est magnifique. Maintenant, on termine la fondation. comme on s'appelle. Et, bon, ça va venir. Bon. Et puis, il y a un centre de pour la tolérance, où on fait venir toute la journée des enfants de tous les pays des États arabes unis, de Dubaï, Les enfants rentrent, il y a une salle grande comme ça, blanche, il n'y a rien. Alors les enfants commencent à courir partout, et ils ne comprennent pas ce qu'ils font là. La première fille ou le premier garçon touche les murs, claque, apparaissent des fleurs. Alors, la joie des enfants, des fleurs sur un mur blanc. Il y a une voix qui dit, vous voulez peut-être dire notre couleur. Alors les enfants commencent à crier, oui, rouge, vert, 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 clac. Les fleurs se transforment en vert. Et puis on voit apparaître des enfants. Noirs, jaunes, yeux bridés, d'autres, c'est marqué, juifs, chinois, indonésiens, sénégalais, etc. Plein. À qui voulez-vous envoyer des fleurs? Et là commence la discussion. Et ils se mettent d'accord. Sénégalais. Et les fleurs montent. Ils se retrouvent dans les mains de l'enfant sénégalais. Les enfants n'oublieront jamais ça. C'est beaucoup plus fort que nos discours classiques sur la coexistence, les respects des cultures, des traditions. C'est simple. Et je me suis rendu compte, et d'ailleurs j'ai proposé à notre président de construire, avec Jean Nouvel d'ailleurs, un centre mondial pour la tolérance à Paris et utiliser tous les moyens de la technologie moderne et faire venir des enfants de toute la France. Ça aiderait les professeurs. Parce que ça posera des problèmes. En vérité, c'est les enfants qui doivent pouvoir poser des questions. Ce n'est pas au professeur de venir « Taisez-vous, laissez-moi parler. » Ça ne marchera pas comme ça. Dans un monde où on peut rassembler toute la connaissance dans le Wikipédia, dans mon téléphone, vous voulez savoir quelque chose ? Vous mettez le nom, Wanzi, c'était quoi Wanzi? Une réunion des dignitaires nazis à côté de Berlin où était décidée la solution finale. Voilà, je n'ai pas besoin de lire plein de livres, ça y est, j'ai la base. La base pour poser des questions si j'ai des questions à poser. Donc, tout notre système éducatif va changer. Mais on aura besoin de ce système éducatif de toute manière parce qu'on continuera à faire des enfants et ces enfants auront besoin le minimum de savoir pour affronter la vie et la technologie.
Alors, moi, j'aimerais te poser une question puisqu'on parlait des robots et que justement, ils n'ont pas de visage, etc. Est-ce que des robots, on pourrait imaginer qu'ils pourraient aller parler, je ne sais pas, ou à d'autres pour essayer de négocier la paix, enfin, on peut tout imaginer.
Peut-être, c'est une idée, je n'y ai pas pensé.
Voilà.
Les robots peuvent devenir des intermédiaires. Et qu'est-ce qui gêne dans les négociations, même sur le plan économique, si on veut faire des affaires, c'est que on a des propositions, on parle la même langue. Aujourd'hui, malheureusement, le français, qui était une langue internationale, a laissé place à l'anglais. Tout le monde, y compris le président chinois, parle anglais aujourd'hui. Tout le monde parle anglais. Donc, il y a une langue, on parle, on négocie. Mais on voit le visage de l'autre. Et il suffit une grimace d'un Trump pour décourager Poutine d'accepter une proposition. Parce que nous faisons aussi de la psychologie. C'est comme au poker. Le poker, c'est, on ne voit pas les cartes de l'autre, mais on voit les visages de l'autre. Et ces visages nous parlent. Alors, si on enlève le visage, c'est ta proposition. Peut-être, ça serait plus facile. Le robot est notre porte-parole. Le robot ne va pas inventer des choses que nous n'avons pas introduites dans le robot. C'est comme ça. Le robot ne va pas inventer Verdi. Il ne va pas se mettre à jouer de Mozart. Mais si nous, on introduit Mozart, le robot va reproduire Mozart. Mais il est, pour l'instant, le robot innocent. Il n'a pas d'histoire. On n'a pas un problème à régler. Il ne nous a pas pris Alsace et la Lorraine. On n'a pas besoin de récupérer les Sudètes ou la Silésie en Pologne ou l'Ukraine Donbass pour la Russie. Ça, on ne peut pas négocier avec le robot, il n'a rien.
C'est un peu le problème, c'est qu'il ne peut pas négocier.
Si, mais il peut passer des messages.
Jean ?
Ben justement, c'est un message, par exemple, donner les raisons pour lesquelles c'est intéressant pour Poutine d'arrêter la guerre en Ukraine. Si moi, je vais le voir, moi je connais Poutine depuis 32 ans. Bon, il était maire adjoint de Saint-Pétersbourg quand j'ai créé une université française à Saint-Pétersbourg. C'était d'ailleurs l'idée de Chirac. Chirac aimait beaucoup la Russie. Il aimait la culture russe, la langue russe. Et quand il était gosse, il a demandé à sa mère de lui trouver un professeur de russe. Sauf que... au bout d'un mois, il s'est rendu compte que c'était un Serbe qui lui a enseigné les Serbes. Et jusqu'à sa mort, il était persuadé qu'il parlait les Russes, et les Russes rigolaient comme pas possible dès qu'il ouvrait la bouche. Bon, mais donc, je connais. Donc, et les Russes, ce que j'aime chez eux, c'est la fidélité. Comme dit un frère Karamazov à l'autre, tu peux tout dire à ton voisin à condition que tu lui dises d'abord que tu l'aimes. Je t'aime. Et parce que je t'aime, que je me permets de te dire des choses désagréables. Et l'autre va vous écouter, va vous embrasser. Quand on va parler avec quelqu'un, il faut savoir avec qui on va parler. C'est ce que nous ne faisons pas. Moi, je me suis rendu compte combien de fois j'accompagnais des présidents français à l'étranger. Ils allaient voir des gens qui ils connaissaient ce que, les dossiers qu'ils leur conseillaient, ils leur préparaient, mais ils ne connaissaient pas la culture de l'autre. L'autre, il est tributaire quand même d'une histoire. Et ça, ils ne connaissent pas. Bon. Donc, le robot peut nous aider, il me semble au moins. Ben, on peut toujours essayer.
Au fond, qu'est-ce que tu penses de notre époque actuelle, où on a l'impression que tout s'effondre? Tu penses que, justement, grâce à la jeunesse, les choses vont pouvoir évoluer ou pas?
Je ne sais pas grâce à quoi vont évoluer. Je n'en sais rien. Mais il ne faut jamais désespérer. Comme disait Jacques Prévert, il y a toujours soleil rouge à l'horizon. Et comme disait Staline, et dans notre rue, il y aura aussi un jour la fête. Donc, on vit des jours pluvieux, désagréables, froids, etc. Et puis, d'un seul jour, d'un seul coup, on verra les arbres verdir, entendre les oiseaux chanter, et on s'est dit, tout recommence. C'est formidable, cette idée de savoir qu'il n'y a pas de fin. Quel espoir.
Ben, je pense que c'est une très belle conclusion, Marek. Merci beaucoup d'avoir parlé si longuement. Si des personnes ont quelques questions à poser, je sais que le temps est un peu compté, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Marek.
Oui, je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez dit. Vous avez parlé d'un centre de la tolérance, vous avez parlé des grimaces de Trump. On est aujourd'hui dans une civilisation de l'image, plus que de la parole. La technique, c'est plutôt l'image. L'image frappe, comme vous le disiez. Mais quel est l'avenir de tout cela ? La technologie ne va-t-elle pas développer à outrance les images ? Comment revenir aux mots ?
Vous avez raison. Mais si vous prenez l'évolution des langages à travers l'histoire depuis des millénaires, on passe souvent du langage à l'image et de l'image au langage. C'est assez curieux là, ce que vous soulevez là à un moment. Il y avait même au Moyen-Âge, à l'époque de Troubadour, l'image primait quand même sur le langage. C'est l'époque où on commence à construire des cathédrales, l'image. Et puis il y a des fresques avec la Renaissance, la chapelle Sixtine, Raphaël. Je suis devenu peintre au début grâce à un tableau de Uccello que vous verrez si vous allez au Louvre. C'est la bataille d'Uccello. On voit des gens à cheval, avec des lances. Et comme j'ai regardé longuement ce tableau, je me suis rendu compte qu'il y a plus de lances que de cavaliers. Et là, j'ai compris la force de l'image. Uccello avait besoin des mouvements, de transmettre le mouvement d'une bataille. Une bataille, c'est pas seulement deux types avec le revolver qui dégainent plus vite. C'est tous les mouvements autour. Et il a trouvé, c'est déjà la peinture moderne. C'est Kandinsky, on met encore deux lignes, trois lignes de plus. Donc c'est, l'histoire est faite, il me semble, vous me donnez l'idée, des passages, l'image, parole, parole, l'image. Parce que l'image, en se développant, nous oblige quand même d'expliciter l'image. Parce que nous sommes attirés par l'image, c'est la télévision. Vous rentrez à la maison, vous allez regarder ce qui se passe à la frontière d'Iran pour savoir si le troisième porte-avions américain est déjà arrivé ou pas, si la guerre commence ou pas, etc. Donc, ce sont des images qui précèdent tout le reste. C'est ça qui nous impressionne. Et on éteint la télévision, qu'est-ce qui reste ? Les mots. C'est-à-dire, on interprète les images. Et c'est pour ça que le lendemain, pour les petits déjeuners au bistrot, bistrot, le mot russe, comme je vous ai dit, on rencontre des camarades et on échange nos impressions sur les images qu'on a vues la veille. Donc ce n'est pas contradictoire. Et vous avez remarqué comment les gosses adorent dessiner. Saint-Exupéry était le premier à comprendre avec les petits princes. Lui, il avait les deux. Il écrivait, il dessinait en même temps. Dessine-moi un mouton. Donc ce n'est pas contradictoire. Alors peut-être on inventera encore un troisième moyen de communiquer auquel on ne pense pas. Des lumières, il y avait un film de Spielberg dans lequel jouait François Truffaut, comment ça s'appelait, où les extraterrestres qui descendent sur la Terre et on ne sait pas comment leur parler, communiquer, et François Truffaut, donc c'est le savant français qui dit « essayons des lumières ». Il commence à lâcher les couleurs avec les projecteurs, et les autres répondent avec des lumières. C'est aussi un moyen d'échanger avec les autres planètes. Moi, je pense qu'avant de mourir, je pourrais peut-être visiter la Mars. Mars, ça m'a toujours attiré. Pas la Lune. La Lune, non, mais Mars. Oui.
Marie, il y a une question là, monsieur.
Oui.
Pas une question. Je vous remercie de vos paroles. Je vous remercie de toutes vos paroles. Et vous avez parlé de Malraux tout à l'heure. Et ça m'a fait penser que cette année, c'est le 50e anniversaire de sa mort. Et il avait une phrase qui sujet des œuvres d'art. Il disait « c'est la seule chose qui résiste à la mort ». Ça me semble très important. Et puis, vous avez parlé tout à l'heure de Uccello. C'est aussi le futurisme, c'est le mouvement. Et est-ce que tout ne finit pas par une image aussi?
Votre question,
c'est
une réflexion.
Merci Marek pour tous vos propos. Votre multiculture, qui est absolument merveilleuse, me pose une question fondamentale aujourd'hui, parce qu'enseignante. Aujourd'hui, les universités, qui devrait être vraiment le monopole de la multiculture, que vous alliez du nord au sud, à l'est ou à l'ouest, la culture est la même, la culture est imposée. Si vous voulez faire une thèse de doctorat, si vous n'êtes pas dans le parcours d'aujourd'hui, vous n'y avez plus le droit. Je suis donc, et je vous pose la question à vous, Marek, justement, parce que vous avez beaucoup voyagé, beaucoup vu, que sont les jeunes de demain qui sont formatés à l'échelon de la nation entière? Est-ce qu'on n'est pas en train de supprimer complètement la créativité qui vous illumine et qui revient vers nous?
Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il y a... Vous savez, il y a toujours ce qui perturbe un ordre établi, c'est des hasards. Alors, les hasards, pour ceux qui croient en Dieu, disent Dieu qui ne laissera pas l'humanité de s'endormir. Hein? Il a des trucs qu'il n'a pas encore essayé sur nous. Bon. Il a commencé par nous réveiller avec les déluges, parce qu'il a vu qu'on allait dans une mauvaise direction, il a tout effacé, sauf Noé, sa famille et toute la nature. C'est extraordinaire. Ça veut dire que la Bible est un livre écologique par excellence. Par excellence. Et pour la paix, bien sûr, il y a la colombe, hein, qui revient avec dans son bec, hein, une branche de, voilà, d'olivier. Donc, même dans 1984 de Orwell, il y a un perturbateur. Il y a un monde dessiné, contrôlé par les Big Brother, vous êtes aux toilettes, tout est enregistré. Et pourtant, il y a un qui échappe, il s'appelle Goldschmidt. Et pourquoi? Parce que dans un monde sans livre, il a un livre. Il a gardé un livre. Donc, il y a toujours, dans le monde, on veut nous formater, oui, on veut nous contrôler. Il y a trop de forces économiques, politiques, religieuses, bon, qui essayent de nous organiser pour mieux nous contrôler. Il y a toujours un individu, deux individus, trois individus qui échappent et mettent tout en question. Et on recommence, on invente. Non, je pense que si je devais faire un compliment à Dieu, je lui dirais qu'il est génial. Ça veut dire que c'est très difficile d'avoir pu inventer quelque chose de plus complexe et de plus encourageant. On peut, bien sûr, quand on se dit Auschwitz, Hiroshima, les goulags, c'est pas très encourageant. Mais on a besoin des repoussoirs. On ne peut pas dire attention, il y a le mal. Si on ne voit pas le mal, on ne peut pas l'imaginer. C'est quoi le mal? Où commence le mal? Où termine le bien? On ne sait pas. Mais quand Solzhenitsyn raconte les goulags, on commence à voir. Donc d'une certaine manière, on a inventé les goulags pour nous dire attention, parce que ça peut se reproduire partout.
Alors, on a encore le temps pour deux questions, monsieur.
Bonsoir, Marek, et merci pour la qualité des témoignages avec ce parcours très riche. Alors, moi, je suis sénégalais, je n'ai pas encore eu les fleurs envoyées par les enfants. J'irai les chercher après. Plus sérieusement, vous avez un parcours exceptionnel. Je ne vais pas dire que vous êtes de notre âge, mais quand même, vous avez connu un monde beaucoup plus apaisé, des cœurs beaucoup plus réconciliés. Je sais que bon, c'était pendant les guerres, mais quand même, une fois que les guerres sont terminées, les êtres humains, par l'intelligence que Dieu leur a donnée, ben, ont su se réconcilier pour vivre ensemble. Quelle que soit leur conviction. Mais à vous entendre, on a l'impression que vous avez une fascination pour les robots, et notamment pour ces taxis sans chauffeur. Vous en avez parlé tout à l'heure. Alors, nous, on s'est dit, si Dieu nous a donné donc cette intelligence, ces mots, ces paroles, et qu'on n'est pas capable ensemble de construire la paix, ça a été dit tout à l'heure, est-ce que ce sont ces robots qui vont le faire à notre place?
Non, c'est ce que je vous ai dit d'ailleurs. Les robots est un moyen. Les robots n'inventent pas. Les robots enregistrent ce que nous, on lui dit. Et c'est vrai qu'à Abu Dhabi, j'ai pris des taxis sans chauffeur. Alors, au début, on a peur parce que on se dit, s'il m'arrivait quelque chose, à qui je parlerais? Il n'y a personne. Bon. Et puis, il y a une voix qui vous parle quand même. Donc, vous n'êtes pas seul. Dans un an, à Abu Dhabi, à Dubaï, vous aurez des taxis volants pour éviter les embouteillages que nous connaissons à Paris, pour ceux qui viennent à Paris. Ce seront quoi? C'est des drones. Mais au lieu de transporter des bombes qui tuent, vont transporter des gens. Hein, vont arriver, vous êtes troisième étage, vous donnez l'adresse, le drone arrive à l'étage, vous ouvrez la fenêtre, il y a une passerelle, comme sur un bateau, vous rentrez, vous prenez votre place, vous donnez l'adresse, et 10 minutes après, vous y êtes. La technologie va changer nos habitudes, mais ne va pas changer la nature humaine. Mon grand-père, quand il voulait téléphoner, il faisait la queue devant la cabine téléphonique pour pouvoir appeler ses enfants. Mon grand-père n'a jamais vu d'avion de sa vie. Les fêtes, moi j'ai connu le Concorde, c'est extraordinaire. Je prenais le matin, j'allais voir une pièce de théâtre à New York, je dînais et je revenais à Paris. Et je regrette qu'on a arrêté, bon, il y avait un accident d'avion, etc. Mais c'est avion supersonique, c'est quand même extraordinaire. Mais ça n'a pas changé ma volonté de voir mes copains à Manhattan y aller, voir une exposition au musée d'art moderne de New York, ou aller écouter mon ami Rostropovitch, le violoncelliste, jouer à Carnegie Hall. C'est-à-dire, ça ne change pas nos préoccupations. Ça nous donne plus de moyens et ça nous ouvre d'autres horizons. C'est tout.
Alors, on a une dernière question.
Oui.
Oui, bonsoir. Oui, je suis aussi étonné par l'importance que vous donnez à la technologie, aux robots. Et je me posais la question, quelle place vous donnez aussi à la transcendance qui est présente dans les religions, notamment par rapport aux paroles, hein. Vous dites bien le problème des peurs, le problème des paroles qui tuent. Mais les religions sont aussi porteuses de paroles plus grandes et qui nous aident à dépasser tout ça. Et est-ce qu'il n'y a pas non plus quelque chose d'avenir? Et c'est vrai que quand on regarde la jeunesse actuelle, on sent aussi, il y a la technologie, mais il y a une soif spirituelle qui est là aussi. Enfin, voilà, quelle place vous donnez à ça aussi?
Les religions, c'était, bon, de toute manière, l'homme reste devant un grand mystère. Parce que la vie est un mystère. Aïe. Comme dit le Coran, hein, il y a une goutte de sperme, clac, hein, on voit une vie apparaître. C'est quelque chose d'extraordinaire, et tous les jours, ça se passe, plusieurs fois par jour, partout dans le monde. Bon, donc c'est un mystère. Et pour expliquer ce mystère, les hommes ont inventé des dieux. Et la Bible raconte ça de manière extraordinaire. Le père d'Abraham était un fabricant d'idoles. Terah, fabricant d'idoles. Et la Bible raconte, c'est magnifique, c'est le plus beau livre qui est jamais écrit dans l'histoire, la Bible. Mésopotamie. Les villes sont habitées par des citadins. D'ailleurs, avec une technologie très avancée, ils construisent des premières gratte-ciel qu'on appelle les agourates, comme les premières gratte-ciel à New York. Un carré large, un plus petit, un plus petit, un plus petit, pour qu'il se tienne. ce sont les agora. Mais c'était il y a 4000 ans. Puis ils inventent l'écriture, la première écriture, cunéiforme, les tablettes. Ça a changé toute l'économie. Parce qu'avant, il y avait du troc. Donc on prenait un troupeau, on l'amenait à 1000 km et on échangeait contre des choses dont on avait besoin chez soi, qu'on n'avait pas. Donc on laissait les troupeaux, on ramenait autre chose, à d'autres chameaux. Et puis d'un seul coup, il y avait des tablettes. Donc c'est comme un chéquier avec un couvercle. Donc c'était marqué, les porteurs de cette tablette a droit à tant et tant des têtes, des troupeaux, des je ne sais quoi. Donc c'était beaucoup plus facile. L'échange devenait facile. C'est de l'argent. Les chèques, les banques, tout ça. Et puis il restait les mystères. Les mystères, la vie, la maladie, la mort. Alors, il y avait des idoles. La Mecque. Quand on voit ces carrés noirs, c'était quoi? C'était un temple païen. Autour, il y avait 360 idoles que Mahomet a détruites pour faire la même chose qu'Abraham avec les idoles de son papa qu'il fabriquait dans son atelier, Terra. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire l'homme avance par un désir de perfection, par un désir de plus de justice, de plus d'amour. C'est ça qu'il veut. Même les personnages les plus pervers dans la littérature mondiale, il continue après à demander pardon. Il s'est flagellé, le personnage de Dostoïevski. Il tue pour pouvoir demander pardon à Dieu, parce qu'il croit que Dieu existe. Donc, on a inventé des religions. Et Abraham est le premier qui s'est rendu compte que ces religions tribales représentaient une injustice. Parce que si Dieu sont des idoles, c'est lui qui a plus d'argent peut acheter des idoles plus grandes. Donc il était mieux protégé que ceux qui étaient pauvres. Et il trouvait ça injuste. C'est la première fois que le mot « justice » apparaît dans l'histoire de l'humanité. Justice. Donc il faut qu'il y ait un Dieu le même pour tout le monde. Le même pour tout le monde, il faut qu'il soit invisible. Parce que s'il est visible, de nouveau on peut l'acheter et le vendre. Donc Dieu, on ne peut pas ni l'acheter ni vendre. C'est le même pour tout le monde. Il est invisible. C'est magnifique comment ça évolue. L'idée de l'abstraction et des religions évolue. Alors, bien sûr, la religion, en même temps, a donné un pouvoir. Si la religion décidait qui serait le roi, alors, bien sûr, il fallait contrôler la religion. Et Dieu ne pouvait pas intervenir chaque fois. Dans la Bible, il intervient que trois fois. Parce que s'il intervenait plus souvent, il deviendrait plus crédible. Nous ne sommes pas crédibles parce qu'on intervient tout le temps. Parce qu'on a des idées sur tout. Et on donne des conseils à tout le monde. Dieu a donné des règles. tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas les biens d'autrui, tu ne travailleras pas les septièmes jours. Et là, il y a deux versions dans les 10 commandements. Je termine là, parce que sinon on passera la nuit. Et on pense que quand Moïse descend du mont Sinaï avec les 10 commandements, comme Charlton Heston dans les 10 commandements de Cécile de Belleville, il voit les gens danser autour d'un veau d'or, il s'énerve, il casse les deux pierres gravées sous la dictée de Dieu. Et Dieu lui dit, attention, ces gens sont incultes. Aie patience, tu remontes et tu refais les 10 commandements. Alors tout le monde pense qu'ils sont les mêmes. Ben, c'est pas vrai. Vous pouvez vérifier. Il y a deux fois. Et la différence, c'est le Shabbat, c'est le septième jour. Dans la première version, et tu ne travailleras pas, ni toi, ni ta femme, ni ta famille, ni les étrangers qui sont parmi vous, ni les immigrés, déjà, etc. Parce que Dieu, ton Dieu, a travaillé pendant 6 jours pour faire le monde, et le septième jour, il s'est reposé. Ça, c'est la première version. La deuxième version, Dieu n'existe plus. La première version, c'est celle de Dieu. La deuxième version, celle des hommes. Tu ne travailleras pas, ni toi, etc. Parce que vous étiez des esclaves en Égypte. Et c'est pour ça que j'aime ça. Ça veut dire qu'il ne faut jamais oublier que nous étions tous des esclaves. Qu'on est sortis de l'esclavage. Et que la liberté est à conquérir tous les jours, tous les jours. Tous les jours. Et on ne peut pas la conquérir seule. Si on veut la conquérir, c'est avec l'étranger qui est avec nous, avec l'immigré, avec nos femmes, nos enfants, avec tout le monde. Merci.
Merci beaucoup. Merci, Marie. Merci pour votre écoute. Ariane veut dire quelques mots.
Si, tu invites à... Simplement, c'est pour maintenant vous inviter à aller...
Voilà, vous avez un temps de dédicace, si vous voulez, là-bas pour les livres, à droite, et puis un temps aussi...
La librairie, au fond, à droite.
Voilà, et le verre de l'amitié, à gauche.
Et de quoi vous restaurer à gauche.
Merci beaucoup, merci pour votre écoute.
Ah, et les chaises.
Merci,
et
oui. Les chaises. Marie-Hélène.
Attends, reprends-moi le truc là.
Ah, vas-y.
En fait.
Oui, vas-y, pas. Si, ça marche.
Oui, vous allez quitter vos chaises, aller vers le fin ou partir si vous trouvez que c'est trop tard. Mais il faut replier les chaises et on les remet. Sur les trois chariots qui sont là. Mais voilà, je n'allais pas tous le faire, mais il faut quand même qu'il y ait quelques-uns qui aient la gentillesse de nous aider à ranger les chaises.
Merci, vous avez bien travaillé.
Pas terrible parce que les micros, j'ai
voilà. Attends,
ça c'est
toi.
Bon, merci.
Demandez à Gabriel. Marek, je voulais vraiment vous remercier. Quel plus dur, vous m'avez scotché. Quelle mémoire aussi. Et je me disais tout à l'heure, vous écoutant. Est-ce que finalement la religion, est-ce qu'elle n'a pas été écrite par l'homme? Est-ce que Dieu n'est pas une façon de...
Ça va bien. Ouais, ça va. Non, ça va. J'ai vu des hauts, des bas, mais sinon ça va.